Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Chantal Leroux.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie d'Appel sur l'actualité. Le vendredi, vous connaissez le principe, c'est la libre antenne. Alors vous avez choisi aujourd'hui de nous parler du Sénégal, du Mali, de la Guinée et de la disparition du chanteur rwandais Yvan Bouravane. La libre antenne, c'est parti. On retrouve Jacob qui nous attend au standard. Bonjour Jacob.
Bonjour Chantal Leroux.
Vous nous appelez d'Aubervilliers, en région parisienne. Jacob, comment expliquez-vous ces graves accusations portées par la junte malienne contre la France ? La France qui, selon Bamako, arme les djihadistes que les forces de Barkhane viennent de combattre sur le sol malien pendant 9 ans et demi.
Avant de venir d'abord sur cette accusation qui est portée contre la France par la junte, il faudrait d'abord essayer d'établir le contexte de tout cela en disant que la présence de Barkhane, de par son initiation, a été salvatrice pour la République du Mali, dans la mesure où n'eût été cette intervention-là, je crois que la colonne, ce n'est un secret pour personne, la colonne de djihadistes était en train de descendre sur Bamako et aurait facilement constitué un autre Afghanistan en Afrique.
Et donc ça, c'était en janvier 2013.
Exactement, sous la transition de, je crois, Donkomba Traoré et la présidence de François Hollande en France ici. Et donc cette fin qui, pour moi, était inéluctable de l'armée française au Mali, dans la mesure où l'armée française ne se serait jamais nationalisée pour devenir armée malienne, et encore moins le Mali qui serait devenu par la suite éventuellement un dom-tom pour permettre la présence indéfinie, indéterminée de l'armée française. Par conséquent, cette fin devait arriver un jour ou l'autre, où le besoin devait être permanent pour la République du Mali d'avoir l'assistance d'une armée tierce et qui son choix devait se porter en ce moment-là sur la présence française. Donc maintenant, pour revenir sur l'accusation par laquelle vous m'avez introduite concernant ce qui est présenté aux Nations Unies par la saisine du Conseil de sécurité, il faut dire que la junte n'est pas représentative de l'intégralité de la population malienne sans pour autant que j'en fasse partie. Comme aucun pouvoir ne saurait être représentatif de l'exclusivité de sa population ou que ce soit dans quelque démocratie que ce soit. Par conséquent, cette junte-là a un agenda que seule elle connaît et dont elle seule dispose et qui l'amène aujourd'hui à essayer d'aller dans le sens d'une certaine communication en se victimisant aux yeux de tous, en prétextant avec raison ou sans raison que son bourreau ne serait que la France. Mais ça peut exister aussi, puisque la sincérité n'est pas gage de vérité. Et il faut dire que la France aussi fait partie et partie prenante de toute cette situation. Est-ce que la raison d'existence de la présence de Barkhane ne peut pas amener des officines au sein de la République française, notamment des services secrets, de mener ce genre d'action ? Mais je ne sais pas trop et je ne sais pas ce sur quoi la junte s'appuie pour essayer de fonder cette accusation.
On va voir ce qu'en pense Clément. Clément, bonjour, vous nous appelez de N'Djamena au Tchad.
Oui, bonjour Chantal, comment vous allez ?
Ben, très très bien, merci. Clément, je vais vous lire un message qu'on a reçu sur WhatsApp de Fofana qui nous écrit de Côte d'Ivoire. Le Mali se brouille avec la CEDEAO, la Côte d'Ivoire, la France et même avec les Nations Unies. On se demande vraiment si la junte militaire n'a pas perdu le Nord dans sa lutte contre les djihadistes. Malgré la présence de Wagner, la situation sécuritaire n'a guère évolué et malheureusement, Assimi Goïta est en train de conduire le Mali à la dérive. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de Fofana ?
Écoutez, je peux pas vraiment dire je suis d'accord ou pas, mais moi je veux revenir un tout petit peu en arrière aussi comme le précédent auditeur. En réalité, la question de la présence militaire Barkhane au Mali, c'est un problème d'accord entre un État et un autre État. Maintenant, si les gens s'entendent pour dénoncer cet accord pour que la France puisse quitter le Mali, pour moi, c'est la souveraineté du Mali, c'est les accords, pour moi, ça ne me pose pas de problème. Le problème pour moi, c'est simplement le fait que globalement, l'opinion publique sud-saharienne a un problème avec la France. Le problème que cette opinion a, c'est n'est pas être capable de faire face à ses propres gouvernements et on trouve en la France le bouc émissaire des problèmes africains. Donc ça, c'est fondamentalement ça qui parfois, de mon point de vue, et ça c'est ma grosse crainte, la junte militaire au Mali fait un bon clin d'œil à cette opinion, mais est-ce qu'elle est basée sur des faits, sur des situations réelles qui se seraient passées? Ça, c'est ma plus grande crainte, parce que s'il faut juste qu'on agisse pour faire plaisir à l'opinion publique, je suis un tout petit peu, parfois un peu déçu de cette attitude, et j'ai bien peur, j'ai très peur pour l'avenir du Mali dans la manière que les choses sont en train d'être faites.
Merci.
Si les accusations sont réelles, c'est bien, mais sinon moi j'ai très peur.
Merci beaucoup Jacob et Clément de nous avoir appelés pour évoquer le Mali. C'est une victoire dans un mouchoir de poche au Sénégal. Le camp présidentiel a gardé finalement la majorité absolue à l'Assemblée à l'issue des législatives, mais d'une voix seulement. L'opposition, elle, a réussi une percée importante et l'un de ses leaders, ou son principal leader, Ousmane Sonko, a officialisé hier sa candidature à la présidentielle de 2024. Haruna, bonjour.
Oui, bonjour Chantal, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes en ligne de Dakar. Alors Haruna, est-ce que ces résultats sont un vote sanction pour le camp présidentiel?
Oh, bien sûr, c'est les résultats sortis des urnes, c'est une somme de colère exprimée par le peuple sénégalais. Vous savez qu'il y a tellement de scandales qui sont passés au sommet de l'État. Et aussi, il faut savoir, la chèreté de la vie a impacté ces élections, les résultats de ces élections-là, les gens... Et surtout l'opposition qui avait un discours contre sur la chèreté de la vie et le troisième mandat, et ça a fortement impacté les résultats des urnes. Et je pense que là, c'est un message et une alerte à l'égard du président de la République pour lui dire qu'il faut faire attention, surtout sur la question du troisième mandat qui fait couler beaucoup d'encre ici au Sénégal. Et c'est pour dire au président Macky Sall que nous, on ne va pas tolérer, le peuple sénégalais ne tolérera plus un troisième mandat, en quelque sorte, quel que soit... sa popularité en quelque sorte. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ils doivent faire volte-face et renoncer à ce projet-là et sortir publiquement, surtout publiquement, pour dire que je ne vais plus me représenter comme l'a prévu la Constitution sénégalaise. Parce que lui-même, il avait dit devant les Sénégalais que nul ne peut faire plus de deux mandats. Je pense que c'est là où le débat se pose aujourd'hui. Et il doit revenir sur la scène publique pour encore confirmer aux Sénégalais qu'il ne fera pas un troisième mandat, pour qu'il termine son programme dans la paix. Sinon, je pense que
ah oui, Haruna, on va voir ce qu'en pense Ibrahim, qui est aussi en ligne de Dakar. Bonjour Ibrahim.
Oui, bonjour Chantal, bienvenue à Dakar.
Merci beaucoup. Vous êtes d'accord avec Haruna sur cette question du troisième mandat? Macky Sall doit résister à la tentation?
Je crois qu'il a tout faux. Il faudra remarquer une chose, c'est que depuis 2019, nous sommes dans ce procès d'intention. Et Macky Sall, personne ne pourra faire parler le président de la République avant l'heure. C'est lui qui sait quand est-ce qu'il va parler et comment il va parler.
Mais vous pensez qu'il doit, s'abstenir de faire un troisième mandat, qu'il doit résister à cette tentation du troisième mandat?
Oui, mais c'est un procès d'intention. Comment voulez-vous que l'on puisse parler avec un procès d'intention? C'est un procès d'intention pur et simple.
D'accord, alors on va attendre qu'il aborde clairement la question du troisième mandat. Ibrahim, je voulais vous demander, est-ce que cette victoire étriquée de la coalition au pouvoir traduit, comme vient de le dire Haruna, un peu la lassitude, voire la colère des Sénégalais à l'égard de la gouvernance, à l'égard de la présidence Macky Sall?
Mais c'est faux, c'est tout faux. Parce que de la façon, c'est une victoire étriquée, mais il y a victoire quand même.
Oui, mais étriqué seule voix, oui. Grâce au ralliement de Pape Diop, c'est très, très, très juste hein, comme majorité. C'est une majorité absolue, mais d'une voix seulement. Donc, elle est fragile, cette majorité absolue.
Oui, elle est fragile. Oui, mais c'est une victoire quand même. Parce que Macky Sall n'a pas perdu dans les régions, dans le monde rural. Et c'est dans les victoires de l'opposition, c'est dans les villes. Et c'est un faux procès parce que tout simplement, il y a eu une désinformation. Ils ont fait leur campagne sur l'homosexualité, des points sensibles, sur la vie chère qui est mondiale. Et bon, c'est ça, parce que personne ne peut venir à Dakar et dire qu'il n'y a pas eu de travail qui a été fait. Il ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'avancée.
On a bien compris votre point de vue, Ibrahim. Je vous interromps parce qu'on a d'autres auditeurs qui nous attendent au standard et on doit encore parler de la Guinée. Donc, on va prendre la direction de Conakry. Nous attend Abdoul. Bonjour, Abdoul.
Bonjour, Chantal. Bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Alors en Guinée, deux jeunes de 17 et 19 ans ont été tués par balle un mercredi lors d'une journée de contestation anti-junte. Le FNDC, cette coalition de partis, de syndicats et d'organisations de la société civile, a accusé la garde du colonel Mamadi Doumbouya, le chef de la junte, d'avoir abattu les deux jeunes hommes alors que son convoi traversait la banlieue de Conakry. Les autorités de transition, il faut le rappeler, ont dissous la semaine dernière le FNDC et toute manifestation est interdite depuis le 13 mai. Abdoul, est-ce que la junte doit faire marche arrière et annuler la dissolution du FNDC ?
En tout cas, de toutes les façons que la junte fasse le recul ou marche arrière ou pas, je crois que la dissolution du FNDC, c'est tout à fait un recul démocratique. Surtout aussi ce qui est un peu bizarre et aussi contradictoire, c'est par rapport à l'interdiction des manifestations en République de Guinée. Parce que même la charte de la transition que je viens de voir ce matin n'a pas changé son article 8, qui légalise, bien entendu, les libertés et les droits de tous les Guinéens de manifester sur toute l'étendue du territoire. Et c'est étonnant, avec cette junte qui nous a promis des libertés, des droits fondamentaux de tous les Guinéens, qu'il interdise et même assassine des jeunes Guinéens, banalement parce que tout simplement, ils veulent faire des règlements de comptes politiques.
Mais alors comment vous expliquez-vous ce raidissement des militaires par rapport au FNDC et par rapport ce reniement des promesses faites quand ils ont pris le pouvoir ?
C'est une ingratitude, parce que la junte elle-même, elle est convaincue que le FNDC fait partie d'une antenne qui a mené face à l'ancien régime. C'est cette antenne FNDC qui a tenu tête au précédent régime, je vais parler du régime d'Alpha Condé, qui s'est battu, qui a organisé les manifestations jusqu'à ce qu'il y ait le chute des régimes, même si, d'une part, la junte a accéléré les choses, mais le FNDC n'a jamais cédé face à Alpha Condé, et je ne crois pas aussi si c'est face à la junte militaire qui vont céder. Ce que le CND doit faire, tout simplement, c'est de, bien entendu, mettre l'eau dans leur pot de vin pour reprendre les activités comme ça se doit, comme ils avaient commencé. C'est quand même dommage. Au début, on a vu ce CNRD aller se recueillir devant les morts qui ont été tués par le précédent régime. Et c'est même aussi CNRD qui vient aussi continuer à augmenter le chiffre de morts des enfants innocents qui ont envie, qui ont un rêve de liberté, qui ont un rêve de la démocratie tout simplement pour leur pays. Et je ne crois pas que c'est la bonne méthode pour le CNRD. Je pense qu'ils doivent revoir leur copie pour ne pas répéter les bêtises du passé. Si
Abdoul,
c'est ce que j'ai envie de dire.
Abdoul, oui. Je vais donner la parole à l'un de vos compatriotes qui nous appelle lui aussi de Conakry. Bonjour Amadou.
Bonjour à tous les auditeurs.
Amadou, est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde qu'Abdoul ? Est-ce que le durcissement des militaires au pouvoir vous inquiète ?
Si Abdoul, je pense qu'Abdoul n'est pas à Conakry, vous faites semblant de ne pas y être. Parce que toutes les manifestations que la FNDC a organisées jusqu'à là, quel a été le résultat ? Le résultat n'a été que des morts. Est-ce que c'est là la solution ?
Mais
depuis
qui,
le temps de l'ancien régime.
Mais qui a tiré sur les manifestants,
Avant de tirer d'abord sur les manifestants, pourquoi les manifestants sont sur la route d'abord ? Allons de pas à pas, non ? Allons d'abord. Regardez déjà la réaction des responsables de FNDC. Comme l'a dit Moktaba quand il faisait le reportage, il est content d'avoir donné du travail aux forces de l'ordre. Au lieu d'être déjà peiné pour les morts qui ont eu lieu, monsieur est content d'avoir donné du travail aux forces de l'ordre. Vous trouvez que c'est ça la solution ?
Je ne pense pas vraiment que ce soit la position du FNDC. Mais qu'avez-vous envie de dire, Abdoul, à Amadou ? Sur quel point vous pouvez vous rejoindre tous les deux ?
Là, on ne peut même pas se rejoindre. Parce que juste qu'on peut se rejoindre, là où on peut se rejoindre tout petit peu, c'est peut-être par rapport aux choses, comment on appelle ça, que les gens s'assiedent pour discuter. Oui, mais à part ça,
que les gens s'assoient pour discuter. Ce sera le mot de la fin concernant la Guinée pour aujourd'hui. On va terminer bientôt appel sur l'actualité, cette libre antenne, avec la disparition du chanteur rwandais Yvan Buravan, qui vient de s'éteindre, emporté par la maladie à 27 ans. Il faisait partie de la famille du prix Découverte RFI, dont il avait été le lauréat en 2018. Nicanor, bonjour.
Bonjour, Madame Leroux.
Vous nous appelez de Yaoundé au Cameroun. Pourquoi avez-vous été touché par la mort d'Yvan Buravan ?
Déjà, j'ai découvert Yvan Buravan par le prix RFI Découverte. Bon, sa musique m'a plu. Son décès m'attriste beaucoup parce que je trouve qu'il avait, du talent qu'il n'a pas eu le temps d'exprimer. J'espère qu'on lui rendra hommage parce que vraiment, il avait vraiment du talent qu'il n'a pas pu exprimer.
Bien, à la rentrée d'ailleurs, hein, Claudicia proposera une émission spéciale dans Couleur Tropicale et Juliette Fievet rendra également hommage au chanteur rwandais dans Légendes Urbaines. Nicanor, Yvan Bouravan chantait en Kinyarwanda et en anglais. C'était un artiste engagé pour la paix, la réconciliation et l'amour. Ça aussi, ça vous séduisait ce côté engagé, ce côté citoyen d'Yvan Bouravan?
Oui, ça me séduisait. Les artistes engagés, je les apprécie vraiment beaucoup, les artistes engagés.
Est-ce qu'il a des héritiers, selon vous, déjà en Afrique?
Bon, en Afrique, je peux pas me vanter de pouvoir désigner des héritiers pour Yvan Bouravan, mais je suis sûr qu'il en a quand même.
Eh bien, on va écouter Yvan Bouravan, hein, c'est encore mieux de l'écouter. On écoute la chanson Malaika que l'équipe d'Appel sur l'actualité a
choisi. Kuko nibanira n'akazuba iminsi yanjye ihora ari Sunday cause of your love my baby nami nakupenda morning to night my desire my reason to live darling you I have a malaika
Malaika, le chanteur rwandais trop tôt disparu, Yvan Bouravan, auquel RFI rendra hommage à la rentrée avec Claudicia et Juliette Fievet. L'émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Jessica Taïeb, Adrien De Giorgie, Audrey Taïeb, Valentine Lemaire et Théophile Steiner. Sans oublier Pauline Leduc à la réalisation, Diego Tenorio au standard et Simon Buil-Baudin aux réseaux sociaux. Lundi, je vous propose de débattre du dialogue national inclusif qui commence demain au Tchad. Qu'en attendez-vous? Votre avis nous intéresse. Contactez-nous sur WhatsApp au 33 9 693 693 70 ou par mail à notre adresse appel.actu@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux. Bon week-end à tous, portez-vous bien.
Atlantic Traveler, la carte prépayée, rechargeable jusqu'à 10 millions de francs CFA par mois pour effectuer vos achats en ligne et dans les commerces, vous a proposé l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.